Stop, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
Là bonjour à Hello. Tous, il est 9h41, vous êtes tous sur France Inter et c'est l'Instant M qui recommence.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Mais me spoiler le
spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
C'est un grand paradoxe et on est bien placé pour le savoir ici après la 6e saison de l'Instant M. Moins le public fait confiance aux médias et plus les médias offrent une matière qui fait débat. Plus la critique monte et moins on s'y désintéresse. Plus la désaffection se mue en crispation et mieux on veut comprendre. Bref, proposer au grand public une centaine de conférences sur les médias serait une aberration vu ce que cela suscite de rejet. Et bah c'est tout l'inverse, ça passionne. Preuve en est, Média en scène a tenté le coup l'année dernière et a attiré du monde, beaucoup de monde. Ce matin, à la Maison de la Radio, il y avait déjà du public tous azimuts pour venir écouter et interroger des présentateurs télé, des patrons de chaîne, des acteurs des séries, des auteurs même de séries, des faiseurs de podcasts, des gourous, des GAFA, des journalistes de tous horizons et de toutes générations.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Alors, Média en scène, c'est l'événement de l'année. C'est à la Maison de la Radio, 116 avenue du Président Kennedy, dans le 16e arrondissement à Paris. C'est aussi aux Échos, car ils sont nos partenaires. 10 boulevard de Grenelle, dans le 15e. Tarif unique, 10 euros. Ça vous donne accès aux conférences de la Maison de la Radio et des Échos. C'est gratuit pour les moins de 28 ans. Pas pour les moins de 18 ans, hein, pour les moins de 28 ans. Et c'est jusqu'à ce soir, 18h30. Alors, au micro de l'Instant M, celui qui sèche manifestement le discours d'ouverture de la présidente. Bonjour Vincent Giret.
Bonjour Sonia De Villers.
Elle est ennuyeuse la présidente?
Non. Elle est aux Échos là.
Voilà. Vincent Giret, donc le big boss du 4e étage de la Maison de la Radio, quand les jaunes rendent visite aux rouges. Soyez le bienvenu, monsieur le directeur de France Info. Je rappelle que France Info est donc le maître d'œuvre de Média en scène, cet événement qui aura lieu toute la journée. On est mardi, il y a Xavier Delaporte
bonjour,
avec
Sonia,
nous.
Bonjour
Sonia,
bonjour.
Salut Xavier. Et sa chronique de la vie numérique. Mais d'abord, hommage à l'une des plus grandes voix de la radio, Eugène Saccomanno, dit Sacco.
But de Boli ! But fabuleux de Basile Boli ! Oh ! Oh, quel but ! On passe ! On passe ! On passe que tu nous fais plaisir ! Oh ! Sur ce corner fabuleux d'Abbé Dépédé, Basile Boli, notre brave Basile !
Génial. Il est mort hier à 83 ans. Il fut le king d'Europe 1, une vie de commentaires sportifs, mais surtout de ce qu'on appelle dans notre jargon d'after-match. Son émission, le match du lundi, fut créée après la victoire de 98 et elle fit école. Viré d'Europe 1 en 2001, Saccomanno se retrouve sur RTL qui le recrute pour animer « On refait le match ». Même genre, hein. Également diffusé à la télé, sur LCI entre autres, Eugène Saccomanno, le footeux, mais aussi l'écrivain renommé. Son livre « Bandits à Marseille », écrit à la fin des années 50, deviendra Borsalino au cinéma avec le duo Delon-Belmano. C'est pas Belmano, c'est Belmondo. Qui est une sorte de mot-valise entre Saccomanno et Belmondo.
Bref, ça lui aurait fait plaisir.
Ça lui aurait fait plaisir. Mon cher Xavier, oui. La fenêtre de la porte s'ouvre sur une vidéo YouTube.
Ce jour-là, j'ai commencé par détartrer mes toilettes. Ça faisait 15 jours, les amis, que je ne les avais pas détartrées. C'est pas bien, ne me jugez pas, les amis, ça arrive.
Alors, cette vidéo a été mise en ligne il y a une semaine. Elle a été déjà vue 50 000 fois et elle sera sans doute encore des dizaines de milliers de fois.
On Ces vient auteurs... de parler de chiottes, là.
Bah ouais,
oui,
non, ça c'est la vie. Hein.
Oui.
Ces auteurs, Isadora et Marisa, sont ce qu'on appelle des clean-fluenceuses, autrement dit des influenceuses du ménage. Elles sont pas les seules, et certaines sont devenues de vraies stars sur YouTube ou Instagram. Ces clean-fluenceuses se photographient ou se filment en train de faire le ménage. Elles donnent leurs petits trucs sur un ton familier. Leurs intérieurs, la plupart du temps, pourraient être les nôtres. Elles-mêmes sont habillées à peu près comme on l'est quand on fait le ménage. Et leurs conseils sont souvent de bon sens. Par exemple, bah, ouvrir les fenêtres pour aérer, et mettre de l'encens, mais pas trop, pour que ça sente bon, etc. La question est donc, pourquoi ça marche?
Ah oui, vraiment, pourquoi ça marche?
Eh ben, alors récemment, l'excellente revue américaine The Atlantic a tenté d'y répondre. Au dire des gens qui les regardent, ces vidéos ont une grande vertu. Elles reposent. Elles sont rassurantes.
Des gens qui font le ménage.
Elles font du bien. Eh ben, oui. Et d'ailleurs, on peut l'observer en allant voir les commentaires qui sont sous ces vidéos. Ils sont hyper bienveillants, très positifs, très loin de ce à quoi nous ont habitués les files de commentaires. Ce qui est reposant, c'est donc non seulement le contenu de la vidéo, voir quelqu'un qui nettoie, qui met en ordre, qui rend l'intérieur propre et agréable à habiter, c'est reposant. Mais ce qu'elle génère aussi comme type d'interaction, quelque chose de consensuel et de pas intimidant, parce qu'en plus, pour que ces intérieurs soient nettoyés et rangés, il faut qu'ils aient été un peu sales, un peu en désordre. Et c'est toujours déculpabilisant de voir un peu de saleté et un peu de désordre chez les autres. Ce côté peu intimidant distingue d'ailleurs les clean-fluenceuses d'autres influenceuses qui vous balancent à la gueule leur vie et leur maison parfaite à longueur d'Instagram. C'est pourquoi moi je les aime beaucoup, ces influenceuses. Au-delà, il y a presque un sens politique à leur succès. Ce qui est très bien analysé d'ailleurs, pas le sens politique de leur succès, mais le sens politique en général de ce phénomène, par Mona Chollet dans son livre Chez Soi. Dans un moment où le monde est si inquiétant, où la politique est à ce point troublante, où le repliement sur soi, donc, et sa mise en ordre sont des réactions très logiques, une sorte de contrepoint ou de refuge. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si ces communautés de clean-influenceurs et de leurs fans sont très développées aux États-Unis et en Angleterre, où, il faut reconnaître, la vie politique est particulièrement bordélique ces jours-ci. En même temps, le succès de la série de Marie Kondo sur Netflix, oui, vous connaissez Marie Kondo, c'est une dame qui vient aider les gens à ranger leur maison et Netflix.
De manière très, très, très autoritaire.
Ah, très grand succès. Oui, mais c'est ça qui est, ça qui est trippant. Indique bien que la tentation de la mise en ordre de l'intérieur est mondial, on est bien, sans aucun doute, face à un phénomène anthropologique majeur.
Bien, alors de l'anthropologie et des toilettes impeccables à réécouter sur franceinter.fr. Merci Xavier Delaporte.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Vincent Giret est mon invité, il est le directeur de France Info, il est le maître d'œuvre de Médias en Scène. Première édition l'année dernière, gros succès Vincent, 4500 participants, 70-80 conférences, c'est ça, conférences-débats. Vous réitérez cette année, il y en a presque une centaine et dans le même temps, cher Vincent, vous publiez aux Échos, dans le journal Les Échos étant notre partenaire dans cette opération, une longue tribune parue hier, une attaque mondiale contre le journalisme et les journalistes. Vous faites référence à une autre tribune, publiée celle-ci par Arthur Sulzberger, qui est l'éditeur et le propriétaire du New York Times. Et nous voici face à un grand paradoxe. D'un côté, des médias rejetés, d'un côté, des médias critiqués, des médias attaqués, et pourtant, des médias qui passionnent, des médias qui font débat, un sujet qui n'a jamais autant intéressé manifestement.
Oui, parce que nous sommes tous devenus un média. La révolution Internet, ça permet à chacun d'entre nous de poster, de réagir, d'exister, de photographier, de débattre, de donner une opinion, de contester telle ou telle chose, et parfois d'ailleurs même de polariser l'opinion. Bon, et la question des médias, elle est dans l'espace public. C'est important aussi pour voilà un média de service public de dire que c'est important cet espace public. Il y a un enjeu démocratique autour des médias. Et il faut surtout décloisonner cette discussion, ne pas la garder entre professionnels. C'est une réflexion, un échange qu'on veut à ciel ouvert. Mm-hmm. C'est ça l'objectif. Mm-hmm. Je pense que ça intéresse. On a besoin, nous, d'entendre. Hein, on n'a pas oublié aussi des mois et des mois de gilets jaunes répétant les week-ends, on nous enfume, les médias nous enfument. Bon, on peut contester, on peut discuter, on peut s'expliquer, mais le contact est nécessaire. Et pas simplement avec les gilets jaunes, mais avec l'ensemble des Français qui nous écoutent, qui viennent nous voir quand on est en reportage. Ce besoin de dialogue, je crois, est extrêmement important dans une période très critique pour l'information et les médias.
Très critique, parce que vous dressez un bilan extrêmement noir de l'année écoulée.
Oui, tout à fait. Je reprends d'ailleurs un certain nombre d'éléments qui sont donnés par le patron du New York Times. Une trentaine de tués, 230 journalistes emprisonnés, plusieurs milliers de journalistes harcelés. Il y a eu des cas assez dramatiques aux États-Unis. Le harcèlement en ligne des gens qui ont une certaine notoriété dans une radio, dans une télévision, dans la presse écrite, c'est quelque chose qui s'est développé très fortement. Il y a aujourd'hui une très forte proportion d'Américains, par exemple, dans le pays quand même où la liberté d'expression est sacralisée dans la Constitution, favorable au fait que le président américain puisse interdire et fermer des médias. Vous vous rendez compte? C'est hallucinant. Et c'est plus de 40%, je cite de mémoire, des électeurs républicains. C'est 20% en gros des Américains, 47% des électeurs républicains. C'est complètement inimaginable.
Vous citez aussi un chiffre effarant, j'aimerais bien savoir d'où il vient, 70 pays, hein, ça signifie donc y compris des démocraties,
oui,
j'imagine, ou des officines, voire pire, des structures étatique aurait été impliqué cette année dans des opérations de manipulation de l'information. D'où vous tenez ce chiffre?
Alors c'est un chiffre qui est tiré d'une enquête tout à fait sérieuse du Reuters Institute, qui est basé à Oxford avec l'université de journalisme. C'est un endroit de recherche sur le journaliste. Il y a des quantités d'études publiées au cours de l'année. Celle-ci est très intéressante. Il y en avait déjà une en France, faite par des gens de l'école de guerre et du ministère des Affaires étrangères, qui avait sillonné une quarantaine de pays en un an. C'était l'an dernier. Cette année, on a le chiffre qui vient de cette étude britannique. 70 pays, c'est quand même tout à fait colossal, il y a aujourd'hui des gens qui utilisent des bots, des robots, qui vont viraliser un certain nombre de contenus, qui vont fragiliser les sociétés. Il y a un dessein derrière ça, bien évidemment.
Et c'est pas forcément de l'information politique, ça n'est pas forcément de la manipulation en vue d'une élection. Ça touche à tous les sujets de société, Vincent.
Absolument. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a... un grand pays de l'Est ou qui a dans son ambassade un certain nombre de gens qui vont repérer, monitorer en quelque sorte le web pour retirer des sujets qui peuvent cliver, qui peuvent durcir les relations dans la société française. Et ces éléments-là vont être envoyés ensuite dans une factory digitale, j'allais dire, qui va précisément jouer sur ces contenus-là, les viraliser davantage, faire en sorte que...
C'est-à-dire qu'on ne viralise pas seulement des sujets polémiques sur les immigrés, c'est aussi par exemple sur les vaccins.
Mais tout à fait.
Tout ce qui peut créer fracture et tension.
Tout ce qui peut affaiblir nos sociétés. D'ailleurs, vous parlez des vaccins, c'est un des éléments qui est tout à fait inquiétant. D'ailleurs, où la France est un cas d'école extrêmement sensible, puisque près de la moitié des Français ont un doute sur les vaccins. Les vaccins, c'est quand même un progrès majeur de l'histoire de l'humanité. Ça a permis l'allongement des durées de la vie, la baisse de la mortalité. Enfin voilà, des choses extrêmement fortes. Et aujourd'hui, ces acquis-là sont remis en doute. Ah, les vaccins, peut-être, mais quand même, etc. Bon, voilà. Et ça,
alors vous citez Vincent Giret, l'historien Marc Lazare, sur finalement la fin non seulement des grands récits journalistiques, mais pas seulement, également historiques, scientifiques, la fin de l'expertise. Alors, l'expertise détrônée, balayée au vent mauvais du relativisme,
dites-vous. Oui, tout à fait. Marc Lazare a une expression, moi, qui m'a vraiment saisi. Il est historien, il travaille sur l'Italie. Il dit l'expertise est vécue aujourd'hui comme une domination sociale. Même comme la plus sournoise des dominations sociales. Donner un point de vue d'expert, c'est déjà d'une certaine forme être discrédité. On va avoir du mal à faire société si ce truc-là se diffuse à ce point-là. On va du mal à avoir vivre ensemble. Bien sûr qu'on peut contester les experts. Il faut surtout.
C'est ce que j'allais vous dire, Vincent Giret. Comment répondent à tout cela les médias et vous, les premiers France Info, si ce n'est en citant les experts, en multipliant les cas d'expertise?
Oui, vous avez raison, c'est une problématique pour une chaîne d'information en continu.
C'est
qui invite
un poisson
une
qui se mord la queue.
Qui invite une quarantaine de personnes tous les jours sur son antenne et qui, bien évidemment, dans le tas, il y a des experts. Alors, comment on fait? D'abord, il y a besoin de choisir ces experts. Il y a experts et experts. Il y a un petit travail aussi de screening qui permet de savoir que tel expert a une vie aussi peut-être militante, politique, publique ou cachée. Bon voilà, il faut un expert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a publié, qui a une reconnaissance internationale, qui est reconnu par ses pairs et qui a un sujet d'expertise. Bon, et ça voilà. Et ensuite, si vous voulez, je pense qu'il faut laisser toute sa place au débat contradictoire. Vous voyez, on a inventé avec France Culture un module qui s'appelle les idées claires, en disant dans l'actualité, il y a tous les jours quelque chose où il y a une dimension scientifique qui résonne. Les vaccins sont, mais le climat par exemple. Bon, eh bien, on essaye dans un format court de dire trois choses. Qu'est-ce que dit l'histoire de la connaissance sur ce sujet? Les vaccins, Pasteur, donner trois dates, etc., etc. Qu'est-ce qui fait consensus aujourd'hui dans le milieu scientifique sur cette question? Et puis troisième temps, qu'est-ce qui fait débat? Ça, c'est très important. Le doute n'est pas un problème en soi. Le doute, il doit être méthodique. On doit avoir un esprit critique. Les chercheurs peuvent tout à fait assumer que sur ce sujet-là, il y a des opinions contradictoires. Les chercheurs n'ont pas encore tranché parce que l'histoire de la connaissance n'est pas une photographie, mais un film.
Alors justement, revenons à il y a quelques semaines au forum annuel de l'Online News Association qui réunissait à la mi-septembre 3000 journalistes américains et étrangers à la Nouvelle-Orléans. Vous y avez participé. C'est intéressant parce que justement les deux grands thèmes qui ont dominé les discussions sont la lutte contre la désinformation et l'urgence climatique. Or, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que justement, c'est le temps des grandes alliances, résumez-vous dans votre tribune, c'est-à-dire que au journalisme de s'associer avec la science et les communautés scientifiques. Alors, il y a le fait de citer des experts, il y a le fait de s'appuyer sur la science, mais il y a le fait aussi de se servir d'outils scientifiques pour certifier l'information et la façon dont elle circule.
Tout à fait. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que déjà, effectivement, les médias traditionnellement avaient, par une vision peut-être un peu paranoïaque de la concurrence, l'idée de travailler en solo, en cachet, etc. Ça avait déjà bougé avec l'investigation. Consortium international d'investigation, grandes enquêtes, travail de fond sur des données, etc. Et bien, ce qui est intéressant, c'est que à la New Orleans, à ce congrès que vous évoquiez, plusieurs journalistes ont dit, ben, en fait, il faut faire la même chose aujourd'hui. Ce qu'on a fait sur l'investigation, il faut le faire sur le climat. Aujourd'hui, on a besoin, d'abord, c'est un sujet planétaire, on a des données extrêmement éparpillées, la tâche est considérable. On doit être capable d'embarquer le très grand public, et ça vient dans un pays, les États-Unis, particulièrement climato-sceptique. Ou en tout cas, une partie de l'élite politique est très climato-sceptique, voire anti-réchauffement climatique. Et donc, il y a besoin de s'organiser. C'est vrai que ça réveille quelque chose, si vous voulez, d'un journaliste de combat. Ça réveille une fibre militante, un imaginaire, un sens au journalisme
aujourd'hui. Il était temps, non? Parce que
ah oui, mais bien sûr.
On prend par exemple,
mais ça, c'est la bonne nouvelle.
La grille de France Télévisions, chez nous, en France, qui s'est repeinte en vert, boum, du jour au lendemain cette année. On voit que c'est le sujet majeur et dominant, etc. Il y a de toute évidence quelque chose d'assez opportuniste de la part des médias, parce que ça montre. Je reprends le baromètre de confiance publié chaque année par nos confrères de La Croix, confiance dans les médias. Que dit le grand public interrogé à l'heure de ce baromètre? Que ras-le-bol l'année dernière de l'affaire Benalla et de l'affaire Johnny Hallyday. Qu'en revanche, les marches sur le climat, elles ont été sous-médiatisées, sous-couvertes par le média. Donc il y avait une vraie insatisfaction du public, et en réalité, les médias ont un énorme train de retard sur la population.
Tout à fait d'accord. La conférence que vous évoquiez aux États-Unis, autant cette année était vraiment polarisée sur la question du climat, mais il y a un an seulement, 12 mois, c'est rien, le climat était à peine un sujet.
C'est ça.
Ce qui veut dire que là-bas aussi, il y a maintenant ce sentiment d'urgence, cette nécessité. Vous l'avez rappelé, il y a une dimension opportuniste. En clair, les publics jeunes sont en train de transformer les médias aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans
Sauf que pour les vieux de la vieille et pas le public jeune, on se dit mais à quoi bon? Non? À quoi bon?
Oui, vous savez.
Il
n'y
a pas un côté greenwashing à tout ça?
Écoutez, moi, ce qui m'a saisi, voilà, parce qu'on a dit des choses graves au début de cette discussion, ce qui m'a saisi aux États-Unis, alors c'est aussi parce que c'est l'Online News Association, donc il y a beaucoup de jeunes journalistes, mais il y a une énergie. Un optimisme, une envie d'aller bouffer ce sujet, pardonnez-moi l'expression, mais vraiment de dire on est journaliste pour ça, quoi. Notre cause aujourd'hui, le moment, le momentum, c'est le climat, on y va, quoi. Et on va travailler avec des institutions scientifiques, on va prendre de l'intelligence artificielle, on va travailler avec la blockchain pour vérifier des choses. Voilà, ils ont la religion de la techno, quoi. Et là, il y a une mobilisation, franchement, qui est un immense bol d'air, et j'espère que cette ère arrivera jusqu'ici.
D'ailleurs, conférences et débats sur le sujet dans Médias en scène aujourd'hui, toute la journée à la Maison de la Radio, toute la journée au siège des Échos, boulevard de Grenelle dans le 15e à Paris. 10 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 28 ans. Une centaine de conférences, les sujets sont extrêmement larges. On peut pas tous les balayer ce matin, mais venez nombreux. Merci Vincent Giret.
Merci Sonia.
On vous laisse redescendre. Écoutez la présidente Ali Rebehi.
Bonjour.
Comment on s'aime autant de Tinder?
Autant du numérique, c'est notre thème ce matin avec l'hebdomadaire Le 1. Avez-vous succombé à l'appel des sites et des applications de rencontres pour trouver l'âme sœur? Rêvez-vous d'une technologie qui vous permettrait de trouver l'amour à coup sûr? 01 45 24 7000.